France Culture, bienvenue à vous, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand les Brexiteurs sont à la fête, les europhiles, eux, ont le cœur gros. Aujourd'hui, après 47 ans de mariage houleux et plus de 3 ans de déchirement, c'est ce soir en effet que le Royaume-Uni deviendra officiellement le premier pays à quitter l'Union Européenne, étant entendu que cette sortie ne marque pas pour autant la fin du long et tortueux processus du Brexit.
Aux États-Unis, l'accusation et la défense ont à nouveau croisé le fer hier au procès en destitution de Donald Trump.
Et un vote déterminant est notamment attendu aujourd'hui sur la possibilité de convoquer des témoins devant les sénateurs chargés de juger le président américain.
Dans votre journal également, Édouard Philippe qui a annoncé ce matin qu'il briguerait la mairie du Havre aux élections municipales de mars prochain.
Oui, le Premier ministre qui précise toutefois que s'il est élu, il continuera à exercer ses fonctions de chef du gouvernement. Et puis le Conseil d'État a lui suspendu en partie ce matin la circulaire dite Castaner sur le nuançage politique des candidats en vue justement des élections municipales. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Voilà, c'est un sujet polémique depuis un peu plus d'un an et le début du mouvement des Gilets jaunes, qui continue à poser question lors des différentes manifestations contre la réforme des retraites, le maintien de l'ordre aujourd'hui en France. Quelle doctrine ? Nous en parlerons avec le sociologue Cédric Moreau de Bellin.
Merci et à tout à l'heure. Même si une petite trentaine de kilomètres à peine sépare toujours ce matin la ville de Douvres de la pointe du Cap Griné, c'est donc aujourd'hui que le Royaume-Uni a choisi de larguer définitivement les amarres avec le vieux continent. À l'issue d'un interminable feuilleton long de 43 mois, tout aussi chaotique que les 47 années de relations torturées avec l'UE, Boris Johnson célébrera ce soir à 23h dans une allocution télévisée au coin du feu ce moment où l'aube se lève et le rideau s'ouvre sur une nouvelle ère. Antoine Gignoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Alors, avant d'essayer de comprendre avec vous, Antoine, et dans le détail, comment le Royaume-Uni a-t-il prévu de s'engager sur la voie d'un avenir qui semble à bien des égards incertain, peut-être pouvez-vous nous décrire d'abord l'ambiance ce matin? On sait que tout le long du Mall, la grande avenue menant à Buckingham Palace, l'Union Jack flotte fièrement. Une pièce commémorative de 50 pence a également été frappée, je crois, pour l'occasion. Mais pour le reste, donc, Antoine, il semble que le Premier ministre ait plutôt choisi de marquer cette journée historique avec une certaine retenue, comme si, au fond, il valait mieux éviter le triomphalisme.
Oui, absolument. Il est parti dans le nord du pays, d'ailleurs, Boris Johnson, pour un conseil des ministres spécial qui aura lieu à Sunderland, la ville où est implantée l'usine Nissan, ville ouvrière, ville qui a voté à 61% en faveur du Brexit. Et à Londres, on est dans une ambiance un peu mitigée, puisqu'effectivement, autour de Westminster, l'Union Jack a été accroché un peu partout. Les bâtiments officiels ont été éclairés avec des projecteurs bleus, blancs, rouges, aux couleurs de l'Union Jack. Et il y aura ce soir une fête, mais une fête qui n'est pas organisée par le gouvernement. C'est Nigel Farage, le chef du parti populiste UKIP, qui a longtemps bataillé pour le Brexit, qui l'organise, et ça se passera juste devant les murs du Parlement. Pour le reste, l'opinion reste très divisée. J'ai regardé les journaux ce matin, par exemple le Daily Mail, qui a mis beaucoup d'énergie dans cette campagne pour sortir de l'Union Européenne, nous promet une nouvelle aube pour la Grande-Bretagne. À l'opposé, totalement, le Guardian titre sur la petite île que va devenir l'Angleterre, toute seule, perdue au milieu de la Manche. Vous voyez, on est loin, très loin de la célébration qui avait eu lieu en 73 avec une marche au flambeau pour marquer l'entrée dans l'Union européenne.
Alors, si le Royaume-Uni, on l'a compris, reste donc encore très divisé sur ce processus désormais inéluctable, réjouissant pour les uns, navrant pour les autres, il s'en trouve certains ce matin qui n'auront pas manqué de faire éclater carrément leur joie. Ce sont les eurodéputés britanniques du parti du Brexit. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous en direct de Bruxelles ce matin? C'est au son d'une cornemuse donc que ces Brexiteurs ont quitté définitivement le Parlement européen dans une mise en scène soigneusement orchestrée.
Ah oui, avec acclamation et puis cette pancarte brandie sur les marches du Parlement devant les caméras et les photographes sur laquelle on pouvait lire Brexodus Express. Ils ont aussi déployé des parapluies bleus au logo du Brexit Party, puis se sont engouffrés dans un taxi direction la gare du Midi pour prendre l'Eurostar. Le taxi, fenêtres ouvertes, le drapeau britannique flottant au vent. Goodbye, nous ne reviendrons pas, à lancer à la cantonade Anne Whitecombe. Des eurodéputés qui avaient été élus en mai dernier. Ils ne pensaient alors rester que quelques mois jusqu'en d'octobre, eh bien finalement, ils auront passé 6 mois, une demi-année dans cette institution qu'ils exècrent, et on les a donc vus repartir tout sourire avec de toutes petites valises à roulettes. Il faut savoir que les services du Parlement les avaient installés dans une zone un petit peu éloignée de l'hémicycle, au bout d'un dédale de couloirs. Il n'y avait rien au mur, leur bureau était quasi vide, ils ne s'étaient pas installés tout simplement. Ils ne remportent aucun carton, mais ont quitté ce matin Bruxelles avec sous le bras le sentiment du devoir accompli.
Et après donc ce départ en fanfare, les présidents des 3 institutions européennes ont eux pris la parole pour une déclaration officielle à la tonalité radicalement différente, Angélique.
Oui, David Sassoli, président du Parlement, Charles Michel, président du Conseil, qui représente les 27 chefs d'État et de gouvernement, et puis la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, arrivés tous les 3, eux aussi, sous les caméras et les yeux des photographes au Parlementarium, cette fois. Là aussi, il fallait une image. Joignons nos forces pour bâtir un futur commun, est-il écrit sur ce bâtiment, qui est sur la place du Parlement. Nul doute que cette photo-là aussi fera le tour du monde aujourd'hui. Unité affichée pour réaffirmer la force du projet européen, comme l'a souligné la présidente de la Commission.
Et oui, lundi, nous ouvrirons une nouvelle page de notre histoire. Nous voulons le meilleur partenariat possible avec le Royaume-Uni, mais il est clair qu'il y aura toujours une différence. Appartenir à l'Union européenne compte, l'Union fait la force.
Et la force ne se trouve pas dans un splendide isolement, a-t-elle ajouté, mais dans cette union unique au monde. Et puis, citant Jean Monnet, elle a dit « Je ne suis pas optimiste ni pessimiste, mais déterminée ». À ses côtés, Charles Michel a développé l'agenda des 27 et ses priorités pour les 5 ans à venir, insistant au détour d'une question sur l'importance de rapprocher cette Europe et ses institutions des citoyens européens.
Merci.
On va écouter
travailler pour
Michel.
Faire en sorte que l'Europe soit plus et mieux aimée des citoyens européens, qu'il y ait plus d'affection pour le projet européen. Et pour cela, on doit, je pense, être au plus près des préoccupations, essayer de lutter en permanence contre le jargon, contre toutes les formes de bureaucratie pénalisante, et montrer que l'Europe a les idées claires. Agenda digital, Green Deal, sécurité, défendre nos libertés, défendre nos valeurs, nous avons les idées claires.
Voilà, une façon de rappeler qu'il faudra bien, ici à Bruxelles aussi, dans les institutions, tirer les leçons de ce Brexit.
Merci Angélique Bou, en direct de Bruxelles. Alors si à minuit le Royaume-Uni ne sera plus membre donc de l'UE, tout reste évidemment encore à faire pour négocier la relation future entre Londres et Bruxelles. Nous allons y revenir. Mais avant cela, Antoine Gignot, peut-être, faut-il rappeler tout d'abord que l'enjeu crucial immédiat tient surtout au fond à la relation des Britanniques avec eux-mêmes, car Boris Johnson se retrouve aujourd'hui le Premier ministre d'un pays non seulement seul, mais aussi déchiré, et c'est à lui donc qu'il incombe à présent de lancer un processus de réconciliation nationale, étant entendu que des velléités d'indépendance refont déjà surface. C'est le cas notamment en Irlande du Nord, Antoine, en partie séparée donc du reste du Royaume par les modalités de l'accord de sortie, et qui s'interroge sur une éventuelle réunification avec la République d'Irlande.
Oui, on s'en aperçoit d'ailleurs dans le résultat des législatives du mois de décembre. Le nouveau parti anti-Brexit, baptisé Alliance, est arrivé 3e dans cette élection, et 56% des Irlandais du Nord ont voté évidemment pour rester dans l'Union européenne, ce qui donne aujourd'hui un paysage très mitigé, d'autant que après la sortie officielle, le 31 décembre prochain, une fois qu'on aura terminé la période de transition, l'Irlande est censée avoir un statut spécial, un peu à part, à la fois dans l'Union européenne, à la fois du côté du Royaume-Uni, avec la possibilité toujours pour les marchandises et pour les gens de traverser du nord au sud sans être inquiétés, de la possibilité d'avoir un passeport soit de République d'Irlande, soit du Royaume-Uni, et des contrôles qui se feront probablement en mer du Nord, probablement dans les ports, quelques-uns à bord des bateaux. Et ça inquiète beaucoup les unionistes nord-irlandais qui ont peur d'être coupés du reste du pays et évidemment de la maison mère de Westminster. Toutes ces questions ne sont pas vraiment résolues. Elles ont été mises de côté pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir valider la sortie de l'Union européenne que voulait absolument Boris Johnson. Mais il va falloir évidemment s'y confronter dans les semaines qui viennent.
Alors les responsables politiques britanniques seront-ils œuvrés donc ensemble à la réconciliation nationale? C'est à ce seul prix que se fera l'unité du pays qui se nomme encore aujourd'hui Royaume-Uni. Face au patriotisme étroit qui étreint l'Angleterre, le Pays de Galles, pour leur plus docile, observe ce mécontentement avec inquiétude. Enfin, s'agissant de l'Écosse, un sondage publié hier révèle qu'une courte majorité, 51%, serait favorable aujourd'hui à l'indépendance. C'est la première fois depuis 2015 que l'Institut YouGov fait ainsi état d'une majorité de oui à la cessation de l'Écosse. La chef de l'exécutif autonome doit d'ailleurs profiter de cette journée donc historique pour détailler ses projets en faveur d'un nouveau référendum d'autodétermination que refuse toujours d'ailleurs d'organiser Boris Johnson. Je vous propose d'écouter le reportage sur place de notre envoyée spéciale Annabelle Grelier.
À Édimbourg, le drapeau européen qui flotte devant le Parlement écossais ne sera pas mis en berne ce soir. Une décision votée mercredi par une majorité de députés écossais à Holyrood. Le sentiment d'avoir été sorti contre leur gré de l'Union européenne reste encore très vivace dans le cœur des Écossais. Je suis très très triste et déçue qu'on ait été entraîné à l'extérieur de l'Europe contre notre gré. Non, ça me brise le cœur, vraiment. Ce qui me fait garder espoir, c'est que je connais tellement de gens en Écosse qui veulent l'indépendance. C'est leur planche de salut, c'est à ça que l'on doit s'accrocher. Et on espère que l'Europe nous accueillera de nouveau.
Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, souhaite qu'un nouveau scrutin sur l'indépendance de l'Écosse soit organisé en 2020. Demande que le premier ministre britannique, Boris Johnson, a formellement rejeté à la mi-janvier. Mais une motion pour une nouvelle demande a été votée au Parlement écossais. Pure stratégie, estime Nicola McEwen. Elle est professeure de sciences politiques à l'Université d'Édimbourg.
Ils jouent tous un jeu politique. La première ministre écossaise espère qu'en poussant le gouvernement britannique à refuser le transfert de compétences à Édimbourg pour organiser ce référendum et à refuser ainsi aux Écossais le droit de choisir leur avenir, elle gagnera en soutien. Est-ce que je m'attends à voir un référendum en 2020 ? Non, pas du tout.
L'eurodéputé écossais, SNP Christian Allard, n'aura ce soir plus de mandat. Mais il reste persuadé que l'Écosse reviendra dans l'Union européenne.
On est prêt à le faire. On l'a démontré de notre dernière semaine au Parlement européen. On a été très très clair. L'Écosse est un futur membre de l'Union européenne. Donc bien sûr, comme notre premier ministre a dit, d'avoir un référendum sur l'indépendance, on le gagne, on signe la lettre d'admission pour revenir au sein de l'Union européenne et c'est parti.
Lampe torche, bougie, téléphone portable, une veille est organisée à Édimbourg ce soir à l'appel du hashtag Leave a Light On, laissez une lueur allumée, un message d'espoir des Écossais adressé aux Européens.
Un reportage à Édimbourg signé Annabelle Grelier. Antoine Gignot, je reviens vers vous. S'agissant de cette journée historique, donc le divorce aujourd'hui est en réalité essentiellement politique, car dans les faits, rien ne va changer, puisqu'une période de transition de 11 mois va s'ouvrir, donc pendant laquelle le Royaume-Uni restera membre du marché unique, mais aussi de l'union douanière. Est-ce que cela signifie, Antoine, que le plus dur reste en réalité à venir ?
Je crois qu'on peut le dire, oui, absolument. Il reste aujourd'hui absolument tous les scénarios et tous les sujets à envisager pour la future relation entre Bruxelles et Londres. Il y a au total près de 600 traités bilatéraux, multilatéraux. Évidemment, tout ne sera pas abordé. C'est ce qu'a déjà dit Michel Barnier, qui va continuer à négocier au nom de l'Union européenne. Il va falloir notamment regarder les quotas de pêche parce que on est censé trouver un terrain d'entente avant le 1er juillet prochain. Il va falloir aussi rapidement s'intéresser aux questions de sécurité, de partage des informations. On est ici au cœur de Londres et les attentats de ces dernières années ont bien montré la nécessité de coopération. Le gouvernement l'a redit la semaine dernière. Et puis du côté de la finance, là aussi, il y a des solutions rapides à envisager puisque la plateforme financière qui est la City ici va perdre ce qu'on appelle le passporting, donc la possibilité d'exporter les services dans les autres pays européens. Ce sera remplacé par un régime d'équivalence. Mais il reste évidemment à en définir les modalités, tout comme d'ailleurs la totalité des domaines dans lesquels on peut faire du commerce.
Une dernière question, Antoine Gignot. La date butoir pour négocier donc l'accord de relations futures est fixée au 31 décembre. Théoriquement, elle peut d'ailleurs être repoussée de 2 ans, mais Boris Johnson a déjà exclu cette option. Est-ce que cela signifie que dans 11 mois, tout devra être réglé ? Et du coup, les plus pessimistes, sinon même, on dira sans doute plutôt les plus réalistes, rappellent que jamais un accord de libre-échange aussi ambitieux n'a pu être conclu aussi rapidement, Antoine.
Oui, ça reste une première si on arrive à boucler la totalité des négociations en moins de 11 mois. En fait, en moins de 10 mois, puisque les parlementaires européens doivent se réunir dans les semaines qui viennent. Et il y a un vote prévu à Bruxelles le 25 février prochain qui doit permettre de mettre l'Union européenne en ordre de bataille, de décider quels sont les points clés sur lesquels on veut négocier, quelles sont les priorités, ce qui veut dire que les véritables pourparlers ne commenceront qu'au début du mois de mars. Il restera donc un peu plus de 10 mois et ce sera évidemment très court. Tout le monde le dit, y compris Michel Barnier, donc du côté de l'Union européenne.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Donald Trump sera-t-il acquitté ? Dès ce soir, le Sénat doit se réunir cet après-midi pour débattre de l'opportunité de convoquer de nouveaux témoins lors de son procès en destitution. Les procureurs démocrates souhaiteraient notamment pouvoir auditionner l'ancien conseiller national à la sécurité, John Bolton. Problème, pour pouvoir appeler des témoins à la barre, eh bien les démocrates doivent convaincre au moins 4 sénateurs républicains. Or, sauf revirement extraordinaire, eh bien, ce scénario apparaît hautement improbable, de quoi ouvrir donc la voie à un acquittement rapide du président américain, lequel apprécierait sans doute d'être blanchi lorsqu'il sera amené à se prononcer, son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Ce sera mardi prochain. Seule certitude, hier soir, lors d'un meeting dans l'Iowa, Donald Trump paraissait particulièrement confiant. C'est une correspondance de notre envoyé spécial Grégory Phillips.
Pendant qu'à Washington, le procès au Sénat s'éternise, Donald Trump est devant 8000 de ses supporters, réunis au Knapp Center de Des Moines. À la tribune, Trump est particulièrement en forme et il attaque les démocrates à l'origine, dit-il, de la plus grande chasse aux sorcières de toute l'histoire des États-Unis. Je suis sous le coup d'une procédure d'impeachment. Non mais vous croyez ces gens? Ils veulent destituer Trump? À votre avis, pourquoi je suis pas inquiet? Je me souviens pour Nixon, oh, c'était très dur, une période très sombre pour lui. Mais pour nous, on est dans un moment très heureux, très heureux. Alors, dans les rangs trumpistes, on espère que tout à l'heure, les sénateurs renonceront à appeler des témoins à la barre. Mais qu'ils votent et qu'on en termine, implore Craig. Le premier jour où Trump a mis les pieds à la Maison-Blanche, il voulait déjà le destituer. Moi, si j'étais démocrate, franchement, j'aurais honte à leur place. Ils passent vraiment pour des crétins. 1h30 de meeting, un Donald Trump remonté comme jamais, tapant à bras raccourcis sur les candidats démocrates qui lundi s'affrontent ici pour les caucus de l'Iowa, et un président visiblement persuadé que son procès touche à sa fin.
En Algérie, de nouvelles manifestations sont attendues ce vendredi à travers tout le pays pour la 50e semaine consécutive. Et pourtant, les contestataires vivent toujours sous la menace des arrestations arbitraires du régime, en dépit donc des promesses de dialogue du nouveau chef de l'État. Début janvier, c'est vrai, plusieurs dizaines d'entre eux ont été libérés, mais nombreux sont ceux à être encore incarcérés, parfois même pour certains, depuis plus de 11 mois, et ce, sans procès. Vêtu de noir, le visage recouvert d'un masque de protection blanc, son corps inanimé, étendu sur le dos, les bras le long du corps, est resté plusieurs heures sur un trottoir avant d'être découvert à quelques dizaines de mètres seulement de l'un des principaux centres médicaux réservés au traitement des personnes touchées par le coronavirus. Et même si aucun lien n'a encore pu être établi entre le décès de cet homme, âgé d'une 60aine d'années, et l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait 213 morts en Chine, cette scène vient illustrer donc de manière tragique la mise sous quarantaine des habitants de Wuhan, épicentre de l'épidémie. Par ailleurs, nouvelle étape donc dans cette crise sanitaire liée à la diffusion de ce coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que l'épidémie était désormais une urgence sanitaire mondiale. Et de fait, à ce jour, plus de 120 cas de contamination ont déjà été recensés à travers le monde dans une vingtaine de pays. Parmi les zones jugées les plus vulnérables par l'OMS se trouve le continent africain, en particulier parce que depuis 20 ans, ces échanges commerciaux, universitaires avec la Chine ont bondi de manière exponentielle. Selon les derniers chiffres, plus de 170 millions de Chinois se sont rendus en Afrique en 2017 et c'est la raison pour laquelle elle constitue donc potentiellement aujourd'hui l'un des principaux foyers de développement. Problème, si l'apparition du coronavirus a mis en alerte l'ensemble des pays africains, eh bien tous ne sont pas logés à la même enseigne pour se protéger de l'épidémie. Les précisions d'Olivier Poujade.
Les expériences du virus Ebola, du paludisme et plus récemment de la fièvre Lassa ont donné quelques réflexes à l'Afrique pour affronter ce genre de situation. Caméras thermiques pour mesurer la température des voyageurs, cellules sanitaires équipées pour isoler les cas suspects. Le docteur John Kengasong, directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, reconnaît cependant qu'il est possible que des cas de coronavirus n'aient pas été détectés sur le continent.
Nous ne sommes pas parfaitement armés, mais nous fonctionnons en réseau à travers le continent pour aider rapidement les pays les moins préparés à faire face, pour notamment la détection et les tests en laboratoire.
En 10 ans, le trafic aérien entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 600%. Nairobi, Addis Abeba, Dakar, Lagos, les quatre principales portes d'entrée sur le continent sont aujourd'hui en vigilance maximale. Certains pays plus radicaux, comme le Mozambique, refusent désormais toutes les demandes de visa en provenance de Chine.
Voilà, et puis toujours s'agissant de ce virus, j'ajoute que l'avion dans lequel se trouvent les Français rapatriés de Wuhan, foyer de l'épidémie, a atterri à Istres ce matin. Les quelques 200 personnes à bord ne présentent aucun symptôme, selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, mais ils seront tout de même placés 14 jours en quarantaine. Sa décision est prise, mettant fin à plusieurs mois de suspense autour de sa candidature. Édouard Philippe a donc choisi de se lancer dans la bataille des municipales. Celui à qui l'on avait prêté des intentions à Paris se présentera finalement comme tête de liste au Havre, la cité normande qu'il dirigeait avant d'être nommé à Matignon. En revanche, le Premier ministre précise qu'en cas de victoire, il restera bien à la tête du gouvernement. Alors attendu ce soir au Havre pour son premier meeting, Édouard Philippe devrait y préciser donc les contours de son programme qu'il qualifie lui-même d'ambitieux. Dès lors, comment expliquer donc cet appétit politique, l'ambition d'Édouard Philippe cache-t-elle autre chose? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Édouard Philippe est candidat, tête de liste, et il a l'ambition de redevenir maire du Havre, a-t-il assuré à nos confrères de France Bleu Normandie. Mais il veut aussi rester Premier ministre à Matignon. Il a donc dû s'expliquer ce matin sur cet appétit politique.
Le cumul des mandats, il n'en est pas question. J'ai indiqué qu'on ne pouvait pas être, le président de la République l'avait dit d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas être maire et ministre. Et c'est la raison pour laquelle j'indique clairement que en mars 2020, s'il est à vrai me font confiance, je resterai à Matignon aussi longtemps que la mission continuera. Mais je le dis aussi clairement, être Premier ministre, c'est un moment qui a vocation à s'achever. Je ne sais pas quand il s'achèvera, parce que j'ai toujours dit que je resterai Premier ministre aussi longtemps que la majorité parlementaire me soutiendra, aussi longtemps que le président de la République me le demandera, et aussi longtemps que je serai à l'aise avec ce que nous faisons. L'ambition de ma vie politique, dès que cette mission s'achèvera, c'est d'être maire du Havre. Je l'ai toujours dit. Et je continue à le dire.
L'argumentation est habile et on ne peut pas reprocher à Édouard Philippe de ne pas être constant en la matière. Il a toujours dit qu'il était attaché au Havre et qu'il avait l'ambition d'y revenir. Mais cette candidature masque peut-être une autre ambition un peu moins avouable. Le Premier ministre a pleinement endossé et porté la réforme des retraites voulue par le président de la République. Et alors que le conflit social déclenché par cette réforme est en passe de s'achever, ce scrutin local, si Édouard Philippe l'emporte, aura valeur de légitimation démocratique et populaire de son action. C'est d'autant plus le cas que la contestation contre la réforme des retraites a été particulièrement vive au Havre, ville historiquement communiste de 1965 à 1995. Cette élection locale dont il est à ce stade le favori en tant que maire sortant pourrait donc le renforcer au niveau national. C'est aussi valable pour les autres ministres qui sont déjà ou qui se porteront candidats, à condition bien évidemment qu'ils remportent cette bataille des municipales.
Et municipal toujours et encore, ce matin, le Conseil d'État a suspendu en partie la circulaire dite Castaner qui prévoyait de n'attribuer de nuances politiques aux candidats et listes déclarées que dans les communes d'au moins 9000 habitants. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
On se souvient que l'opposition y voyait une tentative de masquer les résultats de La République en marche. Cette disposition a donc été suspendue parmi d'autres. Faut-il parler de camouflet pour le gouvernement?
Alors, après avoir émis un avis pour le moins sévère sur le projet de réforme des retraites, le Conseil d'État distribue un nouvel avertissement au gouvernement ce matin. La plus haute juridiction administrative suspend trois séries de dispositions de cette circulaire adressée au préfet le 10 décembre dernier. Que demandait le ministre de l'Intérieur? Eh bien que l'on n'attribue pas de nuances politiques, c'est-à-dire de couleurs politiques aux candidats dans les communes de moins de 9000 habitants. Eh bien, le juge des référés du Conseil d'État a dit ce matin qu'une telle limitation ne pouvait être appliquée au regard de l'objectif d'information des citoyens. Cette disposition conduirait à exclure 95% des communes dans la présentation présentation nationale des résultats, autrement dit la cartographie politique de la France au lendemain de ces municipales. L'opposition avait également saisi le Conseil d'État sur l'attribution d'une nouvelle nuance aux listes soutenues par La République En Marche, le Modem, l'UDI ou la majorité présidentielle. Et là, le Conseil d'État dit qu'il n'est pas logique de créer une telle nuance diversante, car cela ne respecterait pas le principe d'égalité de traitement entre les partis politiques. Selon l'opposition, cette nuance LDVC, liste divers droite, aurait permis de gonfler artificiellement le score de la majorité. Enfin, dans cette circulaire Castaner, le juge des référés estime que l'on ne peut pas classer la liste Debout la France dans un bloc extrême droite. En résumé, on peut dire que c'est une sanction à effet immédiat pour le ministre de l'Intérieur. C'est un revers pour Christophe Castaner, une victoire pour la démocratie et la France des territoires, commente sur Twitter le patron des députés LR, Damien Abad. La circulaire sera modifiée, assure ce midi Christophe Castaner.
Merci Pierre Neveu. Les grèves contre la réforme des retraites ont fait reculer l'économie française en fin d'année, engendrant un ralentissement plus fort que prévu sur l'ensemble de 2019. C'est ce qui ressort d'une première estimation publiée ce matin. Et puis s'agissant du projet de loi donc de réforme des retraites, j'ajoute que selon un dernier décompte, plus de 22 000 amendements ont d'ores et déjà été déposés en vue de l'examen en commission à l'Assemblée à partir de lundi. Un record depuis 2017. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera globalement couvert sur l'Hexagone, mais restera dans l'ensemble plutôt sec, à l'exception de quelques précipitations attendues sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Isabelle Souquet pour le prochain journal de la rédaction.